On peut imaginer que de grève nationale, on passe à grève générale d'une certaine manière, peut-être en Colombie, que simultanément de cela, à l'international, eh bien, voilà, la société civile se mobilise également à Genève. Il y a une manifestation samedi à 14h Place des Nations de solidarité avec la Colombie, avec le peuple colombien en lutte. Et c'est selon vous peut-être sur ces aspects-là que quelque chose, que les lignes pourraient bouger, c'est de faire pression, que la société civile de par le monde se solidarise et puis fasse pression sur les politiques, les édiles locales, avec également, pourquoi pas, le fait de questionner et d'alerter les instances internationales.
Et je suis très pessimiste avec toutes les possibilités de soutien international. Il faut travailler ça, mais en général, ce sont des secteurs de la gauche qui ont une sensibilité. Oui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le travail, il faut le faire, mais je n'ai pratiquement aucun espoir que de l'Europe ou des États-Unis, des simples citoyens, puissent faire parvenir à changer l'attitude qui sont les politiciens vis-à-vis de la question colombienne, parce que ceci est l'objet de toutes sortes de tergiversations et de toutes sortes de mystifications. Prenez par exemple la question de la drogue, la question de la cocaïne, qui c'est tout un débat. Si vous voyez le nombre de gens qui ont vu toutes les versions sur les narcotrafiquants sur Netflix, ça fait que un ou deux citoyens européens qui l'ont vu se considèrent experts dans la question en Colombie, et donc toute la réduction faite comme un défi de Hollywood entre méchants et bons, les fait s'imaginer qu'en fait il faut soutenir le gouvernement parce qu'il lutte contre le trafic de drogue. Donc il est très difficile pour moi, je pense, de s'imaginer que des gouvernements européens et américains vont changer de partenaires en Colombie parce que des gens le font pression. La Suisse a des ambassades. L'ambassade a plein de contacts. Il suffit de mettre sur Facebook et chercher Colombie, vous allez voir plein d'images inimaginables. Donc, ce n'est pas un manque d'information, ils sont des ambassades sur place. Il n'y a rien qui est caché. Et donc, ils n'ont pas pris parti du pénal dernier 60 ans, n'ont pas pris parti pour la population, ils ont soutenu le paramilitarisme, c'est pour quelque chose. Si en Colombie, il y a des paramilitaires qui sont entraînés, qui ont un armement européen, qui ont de l'électronique israélienne, qui sont encadrés par des ex-militaires européens et américains, vous devez comprendre que c'est un choix, et le choix c'est de massacrer le peuple colombien pour pouvoir accaparer les richesses de ce pays, c'est tout. Donc je pense que ici on en fait une guerre délibérée depuis 60 ans contre un peuple qui n'accepte pas les dictats faits par les multinationales européennes et américaines. Ça, c'est la question. Donc, on ne voit pas le centre de la question. On rentre dans une espèce de schéma scout, un schéma de problèmes familiales, et on ne rentre pas dans la question centrale. La question centrale, c'est que la Colombie est un pays riche, une des plus grandes richesses de ce pays, c'est la cocaïne. La cocaïne ne peut pas arriver en Europe seulement avec des petits voyageurs qui l'essayent de cacher dans leur bagage. Elle arrive en avion. Ces avions, parce qu'ils transportent des tonnes, doivent arriver quelque part. L'argent qui sort de ce trafic, qui est considéré parmi les trois trafics les plus grands au monde, l'armement, la drogue, la publicité, sont parmi les trois, ça dépend des critères pour lesquels on fait les rankings, mais sont toujours dans les trois. Cet argent sale va quelque part, il rentre dans les circuits financiers, alimente la banque, alimente la spéculation, et donc, finance un système politique en Europe qui est noyé dans la drogue, qui vit dans la drogue, qui les parlementaires utilisent la drogue, qui ça existe partout. Mais la seule solution à cette question va être de bombarder les petits paysans avec des produits chimiques. Pour pouvoir faire la drogue, pour pouvoir avoir le raffinement, il faut des réactifs. Parfois, ces réactifs sont spécifiquement faits par cette drogue. Qui les produit? C'est Bayer en Allemagne. Donc, la question de la drogue illustre très bien quel est le niveau d'imposture qu'ont les politiciens, les intellectuels en Europe sur la question colombienne. Mm-hmm. Quand les paysans, on était 8 millions de paysans en Colombie, ont perdu leurs terres, leurs maisons étaient chassées par la force. Quand vous êtes en Colombie, vous avez un lopin de terre et à côté vous avez une propriété foncière ou vous avez une multinationale, ils envoient quelqu'un, il les dit « je vous offre autant d'argent pour votre lopin ». Vous dites non parce que c'est un prix dérisoire, moins de 100% de la valeur. Et le type, il dit, bon, si je négocie pas avec vous, je vais négocier demain avec la veuve. C'est-à-dire que ce soir, vont venir vous tuer. Qu'est-ce que vous faites? Vous devez prendre vos affaires et vous perdez la terre. Sur cette terre, alors, ils vont faire la plantation. Les gens, les paysans, les 8 millions de paysans qui ont été déplacés, devaient aller quelque part. La plupart allaient vers les villes pour s'échapper à la persécution. Ils sont formés des bidonvilles qui entourent toutes les métropoles colombiennes. Mais une petite partie, une fraction de ces gens-là, en voyant que leurs enfants deviendraient des parias, deviendraient des marginaux, ils sont des gens d'une riche culture. Être pauvre ne veut pas dire ne pas être cultivé. C'est une culture magnifique, la culture traditionnelle colombienne. Mmh. Alors, une partie de ces gens-là, pour éviter cet avenir pour leurs enfants, sont partis en direction opposée vers la jungle. Alors, ils sont déchiffrés, ils sont arrangés les terrains, ils ont commencé à cultiver. Ils sont des bananes, ils sont d'ananas, ils sont des différents produits comme les maniocs. Comment ils vont les vendre quand ils sont à 300 km d'une ville? C'est impossible. Non, ça ne devient pas rentable. On touche la drogue, c'est un exemple, mais il faut comprendre quel est le mécanisme de la drogue. Et quand un paysan cultive la feuille de coca, une partie c'est une utilisation ancestrale qui est médicale. On peut faire du thé, des shampoings avec la drogue. La feuille de coca, c'est comme les vignes. Vous pouvez pas interdire les vignes parce qu'il y aurait des alcooliques ou des gens qui, sous l'empli de l'alcool, font des bêtises. Mais par contre, sur la feuille de coca, qui est une plante, il y a une interdiction. Il n'est pas interdit que le produit final, que c'est un produit chimique, qui passe par plusieurs étapes, mais la plante elle-même, elle est interdite. Qui interdit cette plante? L'Organisation des Nations Unies qui s'occupe des produits narcotiques. Et c'est lui qui a mené à l'époque cette campagne au début des années 60, c'est lui qui a mené cette campagne pour interdire une plante. C'était l'ex-vice-président de Coca-Cola. Et cet accord international était assorti immédiatement à une exception pour Coca, pour que le Coca puisse utiliser la feuille de plante, la plante, le principe actif pour la boisson. Donc, si vous voyez ça, vous comprenez facilement que il y a énormément de problèmes derrière une question si complexe. La drogue n'est que le problème du trafic, ça c'est l'aspect obscur, mais les gens les banques qui tirent profit de cette production, qui la utilisent, qui la rentabilisent dans les marchés financiers, ne sont pas touchés par cette image négative, on ne le voit pas. Je suis très touché parce que ça n'est 80. J'ai vu une photo d'une banque tout à fait conservatrice belge, qui est liée à la démocratie chrétienne, qui avait un siège au milieu de la jungle. Au milieu de la jungle, vous voyez le logo blanc et bleu de cette banque. Il n'y a pas de gens qui vont tirer de l'argent avec une carte. Qui va déposer l'argent là? Le narcotrafiquant. Si vous voyez ça, vous voyez l'autre côté, c'est le problème des consommateurs. Quand il y a cette expérience de mettre une souris, hein, d'un côté il y a de l'eau, de l'autre côté la drogue, et la souris finit pour aller tout de suite à la drogue, c'est parce que dans la cage, il n'y a rien d'autre à faire. Si la bête, il y avait des autres partenaires, il y avait une ambiance, il y avait télé, il pouvait jouer au football, il aurait pris de l'eau, il ne prendrait pas la drogue. La même chose passe avec la population. Pour pouvoir faire face à la question de la drogue, il faut des politiques de santé publique pour faire face à cette épidémie. Il faut voir pour quelles raisons la jeunesse en Europe et aux États-Unis cherche cette drogue. Donc, réduire toute la question de la drogue au trafic, c'est précisément une partie de la question. Pourquoi il n'y a pas de politique internationale pour soulager la population qui souffre de cette addiction? Pourquoi, quand les Nations Unies et n'importe qui, même nous, sans vouloir, nous voulons faire face à la question de la drogue, quand on touche au sujet, on va à la question délinquante, à la partie louche de l'affaire. mais on ne voit pas, on ne voit pas les besoins qu'il y a une partie de la population en Europe, aux États-Unis, pour prendre la drogue, ni on ne voit pas non plus l'aspect de la drogue avec cravate qui est le résultat final de ce trafic. Donc, pour nous, la question doit être envisagée dans son ensemble, dans son ensemble. Et si les paysans en Colombie auraient eu des gouvernements qui donnent des infrastructures et facilitent le commerce, les gens de soi-même n'auraient pas, seraient pas mis à un cultif illicite d'emblée. Mais il n'y a pas, il n'y a pas de politique. Maintenant que la guérilla n'est pas là, à laquelle on accusait d'être une institution qui faisait la, qui fomentait la, la production, aujourd'hui que la guérilla a été désarmée, qu'elle n'existe plus comme guérilla, la production de drogue a augmenté. Alors, c'était pas la guérilla. Quand on parle, par exemple, du contrôle de la drogue, les Américains ont 7 bases militaires avec toute l'électronique inimaginable. Ils ont 7 bases militaires en Colombie. Comment ne vont pas voir, comment on peut voir qu'il y a des bateaux et des avions, pas des petits avions, hein, des grands avions qui partent avec la drogue. Ils ne le voient pas. Donc, la question est très cynique. Il est très cynique. Parce qu'en fait, on pointe les maillons de production, celui qui ne touche le moins, c'est celui qui est touché, les paysans. Ouais. C'est les paysans qui sont touchés maintenant. L'Union européenne finance, et aussi les États-Unis financent les pantages du glyphosate. On répand ces poissons chimiques, que c'est comme la jaune orange pendant la guerre du Vietnam. On les peint partout. Mais aussi des cultifs qui sont destinés à la consommation. Quand vous allez voir une organisation internationale de l'OMS de faire une étude sur l'impact de cette pollution, nulle part. Donc, conclusion, sur cette question, on a souvent, même quand on veut être critique, même quand on est progressiste, on a souvent, malheureusement, la tendance à ne voir que cette question, c'est l'angle le plus facile et celui qui nous pousse toujours la presse. Si l'État aurait facilité, subsidié les transports, les gens auraient toujours vécu des cultifs traditionnels, n'ont pas besoin de pratiquer le cultif intensif de la feuille de coca. Mm-hmm. Mais finalement, bien un capot, il a dit, voilà la plante, vous cultivez ça, et je viens 3 mois prendre la récolte, je paye tant pour les produits. Ce capot vient 3 mois plus tard, il paye cash 900 euros pour le travail de 3 mois. C'est ça plus ou moins. Mais les paysans de là, ils doivent payer aussi les produits chimiques, les traitements, l'engrais, tout. Hein. Mais ils les prennent. Pendant longtemps, les paysans, quand ils venaient à faire son petit commerce, de retour à chez lui, il était arrêté et tué par les paramilitaires qui les volaient cet argent parce que c'était en combine avec les trafiquants. À ce moment-là, les paysans sont allés vers la guérilla et ils disent « c'est à vous de garantir notre sécurité ». Alors la guérilla est rentrée dans l'affaire de la drogue. Comment? Simplement parce qu'il a représenté les intérêts des paysans et dit au capot « ça c'est le prix, nous on contrôle que les pèses, les balances soient bien réglées, que ne trompent pas les paysans et vous nous payez à nous un impôt pour tout kilo de drogue qui sort de notre région ». Et c'est comme ça alors que les trafiquants ont été obligés de payer pendant des années un impôt révolutionnaire, un impôt qui servait à quoi? Servait à financer l'école, la santé publique, les infrastructures. Ces 3 items que dans un pays normal, c'est l'État et à charge de l'État, en Colombie, étaient faits par la guérilla. Donc la guérilla, c'est l'organisation naturelle à certains moments de la plupart des paysans colombiens qui habitent un peu plus loin qu'une proche ville. De toutes ces régions, la stabilité, par exemple le divorce, était exécuté, était dicté par la guérilla. Donc la guérilla naît parce que les paysans qui ont perdu leur terre, qui ont été obligés de prendre l'exil, de devoir changer de région, ont dû trouver une manière de se défendre de l'État, des militaires, des paramilitaires, des trafiquants. Et donc, les conflits colombiens, après, dans les films de Netflix, qui est le principal? Le principal trafiquant, c'est la DEA. La DEA a comme fonction faciliter les affaires. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, la CIA et les services secrets américains finançaient le budget secret, donc les opérations occultes, les finançaient avec le trafic. Mais il y a eu un trafiquant local qui a voulu nationaliser cette affaire, et c'est Pablo Escobar. Pablo Escobar a remplacé la filière de vente au détail aux États-Unis par son propre réseau. Et alors là, les Américains découvrent que la drogue est affreuse, qu'il faut la combattre. Pour cela, ils sont armés des autres fractions de trafiquants pour lutter contre Pablo Escobar, parce que Pablo Escobar voulait s'accaparer l'argent et pas le partager avec la CIA. Et c'est comme ça que vous avez la guerre contre Pablo Escobar. Pablo Escobar, c'est un type affreux qui a fait des choses abominables. Mais la DEA va faire la même chose, simplement que va entraîner ces mêmes trafiquants pour qu'ils deviennent un acteur politique. Quel est l'acteur politique? C'est les paramilitaires. Les paramilitaires sont devant des armées professionnelles entraînées par les Américains, financées par l'Union européenne, entretenues par toutes les lobbies de l'armement, qui sont entraînées souvent par les Israéliens. Et ces gens-là participent dans la lutte entre les fractions de capos de la mafia, mais surtout ils luttent contre les dirigeants sociaux, ils luttent contre la population organisée et aussi contre les communistes et les fractions de guérilla. Donc, vous savez, le cocktail, il est là. C'est ça qui est compliqué à comprendre, c'est qu'en fait, la décision politique de massacre, la décision politique d'armée, de paramilitaires, que c'est pire que l'État islamique, c'est des pays de l'OTAN. Sont les pays de l'OTAN qui sont... Vous savez combien d'argent a utilisé les Américains pour essayer d'effacer la guérilla de FARC? Pendant 10 ans, ils ont eu 10 000 milliards de dollars. Plus 20, plus 2 qu'on a donné en supplément. Pour donner les 2 milliards de suppléments, ils ont exigé qu'on échange les services publics colombiens soient privatisés. Ouais. C'est comme ça que c'est fait la guerre. C'est la fait la guerre militaire, c'est la fait économique. On liquide les services publics, on pousse les gens à l'anéantissement de toute volonté de lutte parce qu'en plus on les massacre. Vous voyez ici en Suisse, en Europe, quelqu'un qui dénonce l'existence de fours où on brûle des opposants. Non, mais en Colombie, ça existe. C'est reconnu aux États-Unis, c'est reconnu par les enquêtes internationales. Et même parfois, des gens qui étaient brûlés étaient vivants. Vous savez, les enquêtes internationales prouvantes qui prouvent que, par exemple, il y a eu des mares d'élevage de cocodriles, on alimentait avec des syndicalistes. Non? Pourquoi tout ce qui est très public, qui est fait par des organisations tout à fait neutres et internationales, ne fait pas scandale? Parce qu'il y a un système international qui sait qu'il faut soutenir le gouvernement colombien parce qu'il n'existe pas un autre pays où les gouvernants vont donner aux multinationales les conditions d'exploitation qu'ils vont retrouver en Colombie. Mmh. Donc le problème, il est très lié entre l'appétit des multinationales, les gouvernements qui servent ces multinationales en Europe et aux États-Unis, tous ensemble et ont comme tâche liquider toute volonté de résistance du peuple colombien pour les voler leurs terres, le pétrole, l'argent, les minéraux, tout. Et donc, c'est un pays qui a, comme le Congo, la très mauvaise chance d'être trop riche. Ouais.